Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cela ne vous aura pas échappé, la France est en pleine période électorale, élection présidentielle oblige. Et alors que le mot était un peu absent des débats, ces derniers jours, un sondage et une conférence ont mis le mot « travail » à l'honneur. Du côté des candidats à l'élection présidentielle, celui du Parti Socialiste, Benoît Hamon, veut revenir sur la loi travail dont l'adoption, vous vous en souvenez, a soulevé beaucoup de manifestations l'an dernier. Marine Le Pen, elle, veut abroger purement et simplement cette loi. François Fillon veut aller vers la semaine de 39 heures au lieu des 35. Et Emmanuel Macron veut donner la priorité aux accords d'entreprise. Tout cela pour vous dire que le travail, combien de temps doit-on travailler, dans quelles conditions, en étant payé combien et comment, est au centre de beaucoup de préoccupations. Cela peut paraître paradoxal dans une France où le chômage fait des ravages, dans une Europe où le travail est souvent précaire, dans un monde où l'on se demande s'il ne faut pas renoncer au plein emploi et dans lequel la mutation numérique révolutionne la relation au travail. Beaucoup de sujets, beaucoup de questions que je vais poser à l'invité que je vous présente maintenant. Bonjour Gilles Berset.
Bonjour.
Gilles Berset, vous êtes professeur d'économie associée à l'Université Aix-Marseille, spécialiste de l'économie du travail. Vous avez publié de nombreux ouvrages, tant en français qu'en anglais. L'un de vos derniers livres en français, « Travailler au XXIe siècle, l'ubérisation de l'économie », est paru aux éditions Odile Jacob. C'est un livre que vous co-signez avec Jacques Barthélémy, un avocat spécialiste de droit social.
Absolument.
En quoi l'économiste et le juriste convergent-ils dans ce livre ? Pourquoi s'associer à un avocat?
Écoutez, nous, Jacques Barthélémy et moi, nous tenons à associer nos points de vue, nos analyses, pour aborder des questions aussi complexes que celles du travail, parce que dès qu'on aborde les questions du travail, on aborde des dimensions juridiques. Inévitablement, vous avez parlé de la loi El Khomri. La loi El Khomri veut apporter un meilleur fonctionnement sur le marché du travail, contribuer à réduire le taux de chômage. Eh bien, la loi El Khomri, c'est quand même évidemment une construction juridique. On ne peut pas penser la réforme pour améliorer la situation économique sans penser simultanément la dimension juridique de la réforme. Les deux vont de pair. Hélas, on voit trop souvent des économistes parler de droit ou des juristes parler d'économie sans maîtriser complètement la dimension qui n'est pas directement la leur.
Au cours de cette émission des reportages, avec Ariane Gaffury, nous accompagnerons un de ces cyclistes qui sillonne Paris pour le compte d'Uber. Avec Nicolas Champeau, nous irons dans la deuxième partie de l'émission en Californie, voir que la nouvelle économie, c'est aux yeux de certains en tout cas le bonheur au travail. Et nous entendrons en deux parties une interview de Mathilde Ramadier, qui est l'auteur d'un livre, Bienvenue dans le Nouveau Monde, comment j'ai survécu à la coulitude des startups, un livre publié aux éditions Premier Parallèle. Gilles Berset, on va remonter très loin dans le niveau de connaissance que vous avez. C'est quoi le travail ?
Le travail, c'est bien sûr ce qui est à la source de la création des valeurs économiques. Donc ça, c'est la première chose à évoquer quand on parle de travail. Et puis, c'est un lieu de vie, d'épanouissement, si possible, pour de nombreux de contemporains. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel, central, avec la vie, les dimensions familiales de la vie, évidemment. C'est ce qui est au centre, c'est la principale composante de notre vie éveillée. Je dirais donc ça contribue, ça participe de l'élaboration de notre identité sur le plan individuel et puis encore une fois sur le plan collectif. C'est le domaine, c'est le lieu, la création des biens et services qui nous entourent, que nous consommons et qui nous permettent de vivre et de survivre.
Dans l'histoire économique, ça a toujours été le cas ?
Dans l'histoire économique, ça a évidemment toujours été le cas. Maintenant, le travail a pris des formes complètement différentes. Alors ça, c'est, évidemment, c'est pas forcément nécessairement du travail salarié. Ça peut être des formes beaucoup plus primitives du travail, dans des formes plus primitives de civilisation. Néanmoins, le travail a pour fonction de nous permettre de vivre, de survivre et d'améliorer notre niveau de vie si possible.
Mais ça, c'est une vision très individuelle du travail. Est-ce que le travail ne vise pas aussi à créer de la richesse ?
C'est ce que je disais au début, au début. C'est le travail, c'est le lieu, c'est la dimension qui nous permet de créer les valeurs qui vont donner lieu aux échanges économique. Alors, tout ce qu'on fait par le travail ne donne pas lieu à échange, encore une fois. Le travail domestique, par exemple, est une forme de travail qui n'est pas vendue sur le marché, qui est trop souvent, d'ailleurs, ignorée, mais qui est essentielle pour vivre, pour chacun d'entre nous. Vous voyez, de tout temps, en tout lieu, l'homme a eu besoin de travailler pour vivre et pour continuer à vivre. Alors les formes du travail ont connu des mutations absolument phénoménales. Ça va de soi et ça va être l'objet de cette émission. Ces mutations sont encore en cours et elles seront toujours en cours, heureusement. Mais néanmoins, au centre, à l'origine, c'est le lieu de la création des richesses, d'une part, et puis un lieu d'accomplissement central, essentiel de l'individu à côté de sa vie familiale, hein, dans le cadre de sa vie éveillée, bien
Alors,
sûr.
Alors, pour celui qui s'intéresse d'un peu loin à la vie économique, à la vie des idées, le grand économiste qui a parlé du travail, c'est Marx. Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il y a d'autres économistes, théoriciens, qui se sont penchés sur l'analyse du travail ?
Tous les économistes qui se sont intéressés à la croissance se sont intéressés au travail. La particularité de Marx est très spécifique. Je dirais encore qu'il se situe dans la lignée, dans la continuité des auteurs classiques, dont parmi évidemment les plus grands, on peut évoquer Ricardo. Mais ce que Marx a dit, c'est que le travail était un lieu qui pouvait être aussi un lieu d'exploitation économique de l'homme par l'homme et qui permettait à certains de s'enrichir aux dépens de d'autres qui n'avaient à vendre que leur force de travail. Vous voyez, c'est une approche particulière, singulière et qui s'inscrit d'ailleurs beaucoup dans le 19e siècle que nous avons passé.
Mais c'est une vision qui n'est pas partagée par tous les économistes.
C'est une vision qui n'est pas partagée par tous les économistes. Je dirais que plusieurs aspects, plusieurs dimensions du travail de Marx ne sont pas partagées par les économistes. D'abord, la mort de l'économie capitaliste, quelque chose qui était inscrit dans l'analyse de Marx et qui a été remise en cause de façon continue depuis les écrits de Marx, première chose. Deuxièmement, le travail peut être aussi un lieu d'épanouissement, un lieu d'accomplissement, où à la fois dans les rapports entre capital et travail, il peut y avoir des gains partagés. L'idée, l'approche consistant à dire c'est forcément un lieu d'oppression et dans ce lieu d'oppression, quand l'un gagne, l'autre perd, cette approche lutte des classes, en quelque sorte, est sans doute complètement dépassée maintenant. Elle reste assez forte, assez vive dans les pays d'Europe du Sud et puis en France, mais elle est complètement dépassée dans d'autres pays, dont les pays nordiques et scandinaves.
Les travaux de Karl Marx ont coïncidé avec la révolution industrielle ?
Les travaux de Karl Marx ont coïncidé avec la révolution industrielle et avec des formes, effectivement, d'oppression et d'exploitation qui ont atteint certains paroxysmes et qui ont bien été traduits dans la littérature économique. On pense évidemment tout de suite à Zola qu'on a tous lu pendant notre jeunesse. Mais ces formes de travail, maintenant, dans les économies les plus développées, sont devenues assez rares. Pourquoi ? Bien parce qu'on a connu la médiatisation, en quelque sorte, liée à l'émergence des syndicats qui défendaient les intérêts des travailleurs, et puis la croissance économique supposée de façon fondamentale l'amélioration du niveau de vie de chacun pour porter pour nourrir la croissance.
Le titre de votre livre, c'est « Travailler au XXIe siècle ». Est-ce que travailler au XXIe siècle, ce sera très différent de ce qui était décrit dans les travaux de Marx ou dans la littérature d'Émile Zola que vous avez évoqué à l'instant?
C'est déjà très différent. Pour une très grande majorité de travailleurs, les conditions et les formes du travail ne sont plus du tout, heureusement, dans nos pays développés, celles du 19e siècle. Ce qui peut être nouveau aujourd'hui, c'est qu'émergent des formes de travail qui appellent des réflexions, à la fois quand on est concerné par des questions d'égalité, d'équité entre travailleurs, d'une part, et puis, deuxièmement, quand on s'intéresse au-delà à côté de ces dimensions d'équité, quand on s'intéresse au bon maintien des conditions même de la croissance. L'émergence de formes de travail indépendant, aujourd'hui, interroge sur comment on doit penser l'évolution. Je reviens aux questions, aux dimensions juridiques, comment on doit penser l'évolution du droit social, du droit du travail, pour permettre au mieux une articulation, comment dirais-je, de la protection des travailleurs et de l'efficacité économique qui nous permettent de continuer à connaître une amélioration de nos niveaux de vie.
Alors, l'un des mots qui est présent sur la couverture de votre livre, c'est ubérisation. C'est une allusion à l'entreprise d'origine américaine Uber, une entreprise de voiturage, de taxi indépendant qui fait des petits. Aujourd'hui, l'entreprise livre même des repas et ça s'appelle Uber Eats. Et c'est un reportage éco-dissier d'ailleurs, signé Ariane Gaffury dans les rues de Paris.
Il suffit de quelques clics pour se faire livrer le repas de son choix parmi 1500 restaurants partenaires d'Uber Eats. Mode d'emploi avec Guido Gabrielli, directeur général d'Uber Eats.
C'est très simple, vous téléchargez l'application sur votre smartphone ou vous connectez à partir de votre ordinateur sur le site uberits.com. Une fois cela fait, l'application vous géolocalise et elle vous propose les restaurants qui sont plus proches de vous pour que vous puissiez vous faire livrer. Le restaurant reçoit la commande sur sa propre application. Une fois que le repas est presque prêt, un coursier est dispatché qui passe à récupérer la commande du restaurant et qui la livre aux utilisateurs.
Trois grandes villes en France sont desservies, Paris, Lyon et Bordeaux, de 8h du matin à minuit. La livraison se fait à vélo. Nous sommes devant un restaurant italien près des Champs-Élysées. Tenue de sport, casque sur la tête, sac isotherme dans le dos, Rado Radonesson, la vingtaine, est prêt à enfourcher son vélo personnel. Pour travailler, il se connecte où il veut, quand il veut.
C'est ça qui est intéressant quand on est coursier, c'est que c'est assez flexible. Donc on se connecte où on veut sur Paris. Et le resto le plus proche donc, qui reçoit une commande nous envoie cette commande. Donc c'est deux commandes maximum dans un même restaurant qu'on livre chez deux clients. Donc en général, c'est des clients qui habitent côte à côte. Du coup, ça nous fait deux courses payées, deux endroits, ça nous fait gagner un peu de temps en fait.
Vous avez combien de temps pour vous rendre chez le client?
Quand on roule assez vite, en général, c'est 15 minutes grand max.
Combien vous gagnez à peu près?
Entre 900 et 1200 euros par mois, oui. Parce que c'est assez fatigant du coup, donc on ne peut pas pédaler tout le temps. C'est un très bon boulot temporaire, on va dire, que ce soit les étudiants ou ceux qui ont besoin un peu d'argent. Et c'est vraiment parce qu'on aime Paris et on aime rouler à vélo, quoi. On peut y aller.
Ok.
Du coup, on se rejoint là-bas, on s'attend?
Ouais.
Faites vite, hein, parce que j'y suis dans 6 minutes.
À 3 km du restaurant, Chani Ben Walid, 27 ans, attend sa commande. Elle travaille dans une entreprise de conseil diplomatique. Son repas est déjà sur son bureau. Rado, le coursier, a eu le temps de l'apporter et de repartir pour une autre livraison.
J'ai commandé une salade de quinoa et une panna cotta fruits rouges.
Vous avez choisi un restaurant en particulier?
En vérité, je ne connais pas encore ce restaurant. Mais non, j'aime bien tester les nouveaux restaurants. Ça m'arrange de commander et de pouvoir manger ici, avec mes collègues tranquillement dans mon bureau. C'est plutôt agréable. Je suis quand même dans un quartier avec beaucoup de bureaux. Tout est assez loin. J'ai beaucoup de travail aussi, donc je suis une grande utilisatrice de ce système et je le fais surtout tous les jours.
Signe de l'intérêt des consommateurs, l'application Uber Eats a été téléchargée plus de 500 000 fois depuis sa création en France en mars 2016. Et plus de 500 emplois de coursiers ont été créés sur le territoire.
Alors, des emplois qui devraient se multiplier puisque Uber Eats vient d'annoncer qu'il allait s'étendre dans environ 14 nouvelles villes en France. Gilbert Sept, c'est ça l'ubérisation de l'économie qui est au cœur de votre livre?
L'ubérisation de l'économie, c'est deux choses. En fait, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de contraste. Il y a d'un côté ce qu'on vient d'évoquer, qui a été très très bien illustré par ce reportage, l'ubérisation, je dirais, un peu prolétaire, c'est-à-dire des personnes qui font un travail qui n'est pas un travail hyper qualifiés, qui sont indépendants, qui sont par une plateforme commandés pour faire des livraisons, pour porter des clients, dans le cas de l'entreprise Uber automobile. Vous voyez, il y a un tas d'applications comme celle-là. Et puis à l'autre extrême, on voit le développement de certaines formes de travail indépendant qui alors sont au contraire très qualifiés, très très pointus, et qui sont, par exemple, dans la prestation de conseils juridiques, économiques, financiers, tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans ces deux cas radicalement différents, on voit souvent une revendication de l'indépendance, d'éviter d'échapper au salariat. C'est ça qui est très particulier. Alors, ce qui est intéressant aussi à souligner, dans la différence entre ces deux formes de travail ubérisées, c'est que la première, la forme prolétaire en quelque sorte, est une forme transitoire. Elle est amenée à disparaître.
C'est-à-dire ce coursier ou ses successeurs n'existeront plus dans quelques années ?
Oui, pour certains, pour beaucoup d'entre eux, ils n'existeront plus dans quelques années. Par exemple, par la voiture autonome, l'entreprise Uber, hein, de VTC, évidemment, n'aura plus besoin dans 5 à 10 ans, enfin, quand toutes les petites difficultés techniques et juridiques et légales, hein, et réglementaires auront été levées dans 5 à 10 ans, eh bien, il est clair qu'une entreprise comme Uber n'aura plus besoin de conducteurs dans ces voitures. Donc, cette forme-là de travail non qualifié sera amenée à disparaître. Par contre, l'autre forme, à l'autre extrême, dans la prestation de services très qualifiés, celle-là sera amenée à poursuivre sa croissance, mais tout en restant une tête d'épingle, je dirais, par rapport à ce que représente l'emploi. Néanmoins, c'est une tête d'épingle auquel on doit être très attentif, parce que ça porte de la création de richesses, de valeurs, beaucoup de valeurs ajoutées derrière.
Mais ce jeune coursier qu'Ariane Gaffury a rencontré, qui livre des repas, il travaille, mais est-ce que c'est un emploi ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un emploi ?
C'est évidemment un emploi. Et ce que nous disons, Jacques Barthélémy et moi, dans notre ouvrage, c'est que c'est un emploi, mais sans subordination juridique. Il n'y a pas de contrat de travail, mais avec une totale subordination économique. Il y a une plateforme qui prescrit à quelqu'un d'aller porter quelque chose d'un endroit à un autre. Et qui a même le pouvoir éventuellement de déconnecter le prestataire de service. Si le prestataire de service, pour une raison ou pour une autre, ne donne pas satisfaction, eh bien la plateforme peut le déconnecter, sans aucune possibilité de recours pour le prestataire concerné. C'est-à-dire les possibilités de recours qu'a un salarié d'aller en justice pour dire non, j'ai été licencié et je trouve que ce licenciement est abusif.
Mais tout à l'heure, vous avez employé le mot prolétaire pour qualifier sa position sociale. Le prolétariat, c'est un mot très connoté, à la fois politiquement et idéologiquement. Ça veut donc dire que malgré tout, il y a encore ce que vous appeliez la lutte des classes un peu dans ce pays.
Il y a le mot lutte des classes est peut-être un petit peu fort. En tout cas, il y a des entreprises qui construisent et gèrent des plateformes. Et par ces plateformes emploient, il faut employer ce mot-là, emploient des personnes, des prestataires de services, qui sont pour l'instant des indépendants, qui sont par rapport à ces plateformes en situation de dépendance économique totale. Et c'est bien le point que nous voulons souligner avec Jacques Barthélémy. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans l'évolution juridique actuellement, hein, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer ce qui s'est passé en Californie, il va se passer ce qui s'est passé à Londres au mois d'octobre dernier, et ce qui se passera sans doute en France, puisque des procédures sont en cours en France, une requalification de ces emplois d'indépendants, requalification en emploi salarié. Ce qui serait, d'une certaine façon, une dénaturation, voyez, de l'essence même de ce travail.
Alors, on continuera à en parler dans la deuxième partie de cette émission, Gilbert Sept. Pour l'instant, nous nous interrompons pour retrouver l'actualité du moment. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré au travail en compagnie de Gilles Berset, auteur du livre « Travailler au XXIe siècle » avec un sous-titre « L'ubérisation de l'économie » et un point d'interrogation. C'est un livre qui est publié chez Odile Jacob et coécrit avec un juriste, Jacques Barthélémy. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons commencé à parler du modèle Uber. Est-ce que cette ubérisation du travail, c'est une souplesse qui bénéficie exclusivement à l'entreprise, Gilles Berset ?
C'est une souplesse qui bénéficie aux deux parties. D'ailleurs, beaucoup de prestataires veulent être indépendants et veulent rester indépendants. Mais, comme toujours, quand émergent de nouvelles formes de travail, il y a des abus ou des inégalités des travailleurs. Des travailleurs sont dans des situations de dépendance économique complète, totale, vis-à-vis d'une plateforme, sans bénéficier des protections dont bénéficient les salariés. Et vous voyez, c'est des formes d'inégalité qui, évidemment, ne sont pas acceptables. Ces protections, on pense à la protection chômage. Ces protections sont, par exemple, la possibilité, en termes de droits individuels, de recours en cas de déconnexion.
Est-ce que ça ne contribue pas à la précarisation d'une masse considérable de gens qui travaillent? Par exemple, on sait qu'il y a des paysans qui survivent à grand-peine, en particulier en France, en Europe, des travailleurs pauvres obligés de dormir dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer un logement. On a vu de nombreux exemples aux États-Unis. On est dans un monde où le travail ne semble plus beaucoup valorisé.
Alors, les États-Unis sont un cas quand même très particulier où depuis près de 3 décennies, sinon 4, le pouvoir d'achat, vous voyez, du salaire médian, salaire qui est au milieu, 50% des gens gagnent plus, 50% gagnent moins, eh bien, ce pouvoir d'achat n'a pas augmenté. C'est quelque chose d'incroyable pour nos yeux à nous. Les inégalités se sont développées à un point phénoménal et le pouvoir d'achat a stagné pour une grande partie de la population, voire a diminué pour beaucoup de personnes. C'est pas le cas en Europe continentale, ça n'est pas le cas en France. Et en France, la situation tragique est bien sûr d'abord celle de l'absence d'emploi pour beaucoup de gens, celle du chômage. Mais il y a des formes de travail qui sont, je dirais, excessive en termes de déséquilibre de droits, et c'est ce que nous voulons, c'est le point que nous voulons, sur lequel nous voulons insister avec Jacques Barthélémy. Nous proposons de donner des droits à ces travailleurs, mais des droits qui ne brident pas ces activités économiques, d'une part, et deuxièmement, nous faisons le constat que si on ne va pas dans cette direction, eh bien, ces travailleurs indépendants seront pour leur plus grand nombre qualifiés en salariés.
Est-ce que vous trouvez que ça occupe une place suffisante dans la campagne électorale française ?
Ça occupait une place, indiscutablement, de façon sporadique. Ça dépend de la situation du conflit. Le conflit Uber, au mois de janvier, a amené, bien sûr, une recrudescence du débat. Néanmoins, souvent, il y a une bonne part de fantasmes. Fantasmes parce que on entendait des candidats, par exemple, aux primaires, nous dire « Ah, l'ubérisation va manger toute l'économie, va tuer le travail salarié, il n'y aura plus que du travail non salarié indépendant. » Eh bien non. Eh bien non. Statistiquement, ce que l'on constate, c'est que dans les 34 pays de l'OCDE, le travail salarié soit se maintient, soit même continue à progresser. Il n'y a que 3 pays qui connaissent une légère augmentation du travail non salarié indépendant dans l'ensemble du travail. Et ces 3 pays sont la France, mais de façon très marginale depuis la création en 2008 du statut de l'auto-entrepreneur. C'est le Royaume-Uni et c'est les Pays-Bas. Dans les 31 autres pays, il y a maintien ou augmentation du travail salarié.
En proportion
de l'emploi total, dans l'emploi total. Donc vous voyez, faut pas fantasmer, il n'y a pas cet effet de travail, l'ubérisation, le travail non salarié, le travail indépendant mangerait toute l'économie. Néanmoins, il y a la disparition de certaines formes de travail non salarié, par exemple vous évoquiez l'agriculture, c'est une forme de travail indépendant, et puis il y a l'émergence d'autres formes de travail non salarié, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou dans des formes de travail très pointues, très très qualifiées dans la prestation de services, ou bien l'autre extrême, ce que j'appelle le travail prolétaire, dont Hubert est une image, une illustration très significative.
Alors Hubert, au début en tout cas, ça a été une start-up. Je ne sais pas si on peut encore qualifier Hubert de start-up. Et le royaume des start-up, le royaume de la nouvelle économie, c'est la Californie et plus précisément la Silicon Valley. Silicon Valley, le bonheur au travail, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Nicolas Champeau.
L'ordinateur portable de Christophe Alexandre est ouvert sur la table de la salle à manger. Ce père de trois enfants, âgé de 41 ans, termine une série de mails professionnels un samedi. Dans la Silicon Valley, la frontière entre le temps privé et le temps de travail est souvent vaporeuse. Mais Christophe, co-directeur exécutif de la société de composants électroniques IDT, l'a bien accepté.
C'est assez flexible, le télétravail ici a explosé depuis assez longtemps. Donc il y a beaucoup de technologies qui nous permettent de travailler de la maison. On fait beaucoup de conférences téléphoniques, de vidéocalls. On communique avec les gens par texte, beaucoup. C'est l'une des particularités de la Silicon Valley. Il fait beau, on a des horaires flexibles, mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de barrières entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc on travaille tout le temps. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir être capable de le faire. Moi, personnellement, j'ai intégré mon travail dans ma vie personnelle. Juste avant que vous arriviez, j'ai fait une demi-heure d'email ce matin avant que vous arriviez, et puis après je pars au ski avec mes enfants.
Cette dévotion peut certes correspondre au niveau de responsabilité des grands managers rémunérés en conséquence, mais les salariés de base ne se plaignent pas non plus. Sur le campus bucolique de Google à Mountain View, les employés peuvent partir en avance pour chercher leurs enfants ou arriver en retard après la piscine ou l'escalade. Tout est permis du moment que le job est fait. Le campus est agréable aussi, tout est fait pour capter l'employé. Mais ce contractuel qui vient d'avoir un enfant tient à corriger ce qui, pour lui, relève des idées reçues.
Des gens se font de fausses idées sur Google. Ils pensent que le fait que Google nous nourrisse gratuitement et propose des massages fait partie d'un complot qui viserait à nous fixer au maximum au travail et nous éloigner de nos familles. Mais moi, je pense que Google a une bonne politique et qui respecte bien l'équilibre travail et vie privée. Nous avons eu un enfant l'an dernier et j'ai pu prendre un mois de congé payé. Et j'aurais pu rester chez moi plus longtemps encore, donc une entreprise qui se fiche de notre équilibre familial ne proposerait pas ça. Mais c'est vrai que c'est agréable ici. Ici, à notre campus de Mountain View, il y a une quarantaine de cafés, vous avez derrière vous des food trucks, il y a des massages, des soirées avec des intervenants de haut niveau, des soirées ciné, des concerts, des festivals. Il est impossible de tout faire et de faire son travail en même temps ici, c'est sûr. On est un peu comme sur un bateau de croisière. On est à mi-chemin entre un campus universitaire et Disneyland.
Cruise ship or a cross between like Disneyland and a college campus.
À Google, tout employé qui a une bonne idée peut disposer de 20% de son temps de travail pour s'y consacrer et recruter aussi des collègues qui vont à leur tour y dédier une fraction de leur semaine. Parfois, le projet n'aboutit pas, mais ce peut être aussi le début d'une success story. Gmail et Google News ont vu le jour grâce à cette formule du 20% time qui signifie parfois dans les faits, des employés nous l'ont dit tout bas, qu'ils travaillent à 120%.
Un reportage signé Nicolas Champeau, vous en pensez quoi de ce... C'est vraiment le monde merveilleux du travail c'est...
Écoutez, moi, la première chose qui apparaît de façon évidente dans ce témoignage, c'est que des indépendants très qualifiés ont le même type de vie que des salariés très très qualifiés. Vous voyez, pour des salariés très très qualifiés, il y a une interpénétration entre la vie familiale et la vie professionnelle. Cette interpénétration est bien sûr favorisée par l'utilisation très forte des outils de mobilité. Mais entre un cadre supérieur dans très nombreuses entreprises et puis un indépendant comme ceux qui viennent d'être interrogés, quelle est la différence dans la façon de
travailler ? Ils sont pas indépendants, ils sont salariés ou indépendants.
Ils sont salariés ou indépendants. Mais voyez, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des formes de travail qui sont semblables. Et c'est ça le point important, mais... Le problème, c'est que d'un côté, il y a des salariés qui ont des droits, et de l'autre côté, il y a des indépendants qui vivent avec une absence de ces droits. Et donc, il faut trouver une façon de couvrir l'ensemble de ces situations, et c'est ce que nous voulons proposer avec Jacques Barthélémy par l'idée de créer un droit de l'activité professionnelle.
Vous avez raison de souligner que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mathilde Ramadier est une jeune Française de 29 ans, elle vit à Berlin, et pendant plusieurs années, elle a travaillé dans les start-up de la capitale allemande. Elle en a tiré un livre, Bienvenue dans le Nouveau Monde, Comment j'ai survécu à la coulitude des start-up. C'est un livre très critique, publié aux éditions Premier Parallèle, j'ai rencontré Mathilde Ramadier il y a quelques jours lors d'un passage récent à Paris et je lui ai demandé pourquoi ce livre était si critique.
Parce que les expériences multiples que j'ai accumulées pendant 4 ans ont toutes été désastreuses, tant en ce qui concernait mes tâches en fait au quotidien, que la précarité des contrats que j'ai eu à signer, l'ambiance dans la boîte, les perspectives d'évolution.
Pourtant, on a l'impression d'une ambiance très jeune. A priori, c'est des jeunes qui sont dans les startups avec des projets enthousiasmants, un avenir brillant devant eux et des jeunes brillants. C'est pas ça ?
En apparence, si. C'est vrai que la moyenne d'âge, c'est à peu près 27 ans et que ce sont des gens plutôt diplômés, qui ont un bac plus 5, qui parlent plusieurs langues, qui ont de l'expérience, qui sont très dynamiques. Mais ça, c'est le miroir aux alouettes, en fait. C'est le vernis qu'on met tout autour. Et quand on s'y penche d'un peu plus près, quand on y travaille quelques temps, hein, il faut même peu de temps pour s'en rendre compte, ça cache en fait une nouvelle forme de précarité, de misère intellectuelle, parce que voilà, les postes sont souvent très limités dans le temps, très mal payés. Il y a bel et bien une hiérarchie, même si on nous fait croire que c'est l'inverse.
Oui, vous nous parlez de hiérarchie plate.
Oui, c'est ça. Sur le papier, même dès l'annonce, on nous promet une hiérarchie plate. Donc, on est tous managers de quelque chose, hein, même si on est une petite main et qu'on gagne moins de 1000 euros par mois. Tout ça est un leurre, en fait, qui arrive au bon moment, je pense, dans notre époque où les jeunes de mon âge ont besoin de rêver.
C'est-à-dire, vous avez quel âge ?
J'ai 29 ans.
Ouais.
Je suis déjà une vieille pour les startups. On a besoin de rêver, on a besoin d'un avenir un peu plus chantant, de perspectives professionnelles enthousiasmantes. Et donc tout ça, avec ce papier cadeau très joli, nous y fait croire. Or, voilà, c'est la nouvelle face de la précarité.
Alors vous décrivez des entreprises où les salariés sont en concurrence les uns avec les autres.
Oui, c'est-à-dire que on nous promet un travail en équipe et puis en fait, une fois sur place, on se rend compte qu'il y a toute une batterie de logiciels et d'outils pour nous fliquer, calculer notre productivité. Hein, donc, c'est des logiciels de ressources humaines, en fait, et de management.
Des logiciels espions, en quelque sorte.
Oui, même pas espions, parce qu'on doit être complice de ça. Hein, c'est-à-dire qu'on doit créer un profil, comme sur un réseau social, et puis afficher tous les jours ce qu'on fait ou nos objectifs de la semaine. Et puis tout ça est noté entre collègues et live comme sur Facebook. Pas du tout dans un esprit d'innovation personnelle ou d'épanouissement au travail, mais dans une compétition qui est plutôt du ressort de la loi de la jungle.
Il y a des héros.
C'est vrai que l'idéologie des startups met en avant la figure du héros, qui est celle du CEO. Hein. Donc CEO, c'est le mot anglais pour PDG. Donc tous les patrons de startups que j'ai rencontrés étaient très jeunes et souhaitaient devenir le prochain Mark Zuckerberg.
Zuckerberg, le fondateur de Facebook.
De Facebook, oui. C'est-à-dire que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, sont pris en exemple et portés au pinacle en permanence. Quand, par exemple, on se plaint de quelque chose, c'est vrai que moi, je me suis vu rétorquer « Ah bah c'est comme ça qu'on fait chez Facebook, c'est comme ça que tu réussiras. »
Dans cet Éco-d'ici Éco d'ailleurs, nous parlons du travail, de la manière dont travail et économie s'articulent avec Gilbert Sept, professeur associé à la faculté d'économie d'Aix-Marseille et auteur du livre « Travailler au XXIe siècle, l'ubérisation de l'économie » aux éditions Odile Jacob, livre coécrit avec le juriste Jacques Barthélémy. C'est assez critique, n'est-ce pas, cette vision des choses de Mathilde Ramadier.
Je crois que ça soulève deux réflexions. Bon, d'abord, dans le travail indépendant, comme celui qui vient d'être décrit, comme dans le travail salarié, puis avoir le meilleur comme le pire. Vous trouverez des salariés qui vous évoqueront des conditions du travail mais incroyablement détestables, d'autres qui s'épanouiront dans leur travail. Vous trouverez la même chose dans le travail indépendant. Donc, vous voyez, il n'y a pas une unité en quelque sorte. Mais le deuxième point que je voulais souligner, le maître mot, à mon sens, de ce qui a été dit, c'est le mot précarité. Cette personne nous dit qu'elle vit dans une situation très précaire. Pourquoi ? Parce que, étant indépendante, elle n'a pas droit à l'assurance chômage, d'abord. Si elle perd son travail, bien voilà, elle n'a rien, contrairement à ce qui se passe pour un salarié. Et puis, deuxièmement, elle est dans une situation de dépendance totale. C'est-à-dire que la personne, son patron, peut décider à un moment ou à un autre de lui retirer ses commandes, d'arrêter de lui passer des ordres, et dans ce cas-là, elle a rien, et puis elle a aucune possibilité de recours, contrairement à la situation d'un salarié. Vous voyez, le maître mot de la chose, c'est précarité, que cette personne a très mal vécu, et à juste titre, et que d'autres peuvent vivre de façon très positive. Et encore une fois, ce qu'il faut chercher, c'est pas tuer le travail indépendant qui fait que des startups naissent, que des idées peuvent se concrétiser, qui parfois donnent lieu à des entreprises qui changent, qui révolutionnent nos modes de vie. Non, il faut surtout pas tu es ça, mais il faut l'accompagner. L'accompagner comment ? En réduisant les formes de précarité extrêmes.
On parle beaucoup de services depuis le début de cette émission, mais pas du tout d'industrie. Cette mutation du travail, elle est valable pour les services, pas pour l'industrie ?
Elle concerne essentiellement la prestation de services. Parce que c'est dans ce domaine qu'une ébullition incroyable est en train de se faire dans une grande quantité d'activités de services. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'industrie, il n'y en a pas. Mais l'industrie est beaucoup plus installée dans des formes de travail qui passent, qui recourent au salariat d'une façon quasi exclusive.
Mais c'est un monde d'informalité qu'on nous décrit là, que vous décrivez. Alors, l'informalité, c'est quelque chose contre lequel les dirigeants des pays en développement luttent constamment. Or, on voit que cette informalité, elle vient s'installer dans les pays développés maintenant.
Absolument. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent, dont il faut voir quand même les dimensions positives, qui sont multiples. Prenons encore une fois l'exemple d'Uber. Ce que nous a montré l'émergence des VTC, dont Uber, c'est à quel point nous étions rationnés dans un pays comme la France, comme dans d'autres pays développés. 40 000 emplois ont été créés par l'émergence de ces VTC. C'est fantastique d'abord en termes d'emploi, c'est fantastique ensuite en termes de bien-être pour les consommateurs, qu'ils soient touristes ou qu'ils soient résidents dans les lieux où se sont développées ces entreprises. On n'attend plus les taxis maintenant comme on les attendait antérieurement. Donc vous voyez,
rationner, c'est un mot fort ?
Ah non, rationner, c'est pas un mot fort. Quand vous vivez à Paris, il y a encore quelques années, le samedi soir, l'été, c'est-à-dire au moment où il y a une forte densité de touristes, il était quasiment impossible de trouver un taxi. Il vous fallait attendre parfois plus d'une heure pour trouver un taxi. Vous vous rendez compte, pour les touristes qui viennent visiter une ville comme Paris, les conditions dans lesquelles on les reçoit ? Maintenant, ça n'est plus le cas. On a des conditions de confort en termes de consommation très grandes. Il s'agit d'éviter que cette activité économique, néanmoins, se développe, se fasse avec des formes de travail d'une précarité qui ne sont pas acceptables. Pourquoi ? Parce que en termes d'équité, en termes de protection des travailleurs concernés, c'est totalement déplacé dans le 21e siècle pour les pays développés.
Il y a une concomitance entre la montée des inégalités que vous évoquez et l'apparition de cette nouvelle économie. Est-ce qu'il y a un lien ?
Il y a à la fois un lien et pas de lien. Il ne faut pas quand même grossir le trait. Pourquoi ? Bien parce que on voit que le mouvement de requalification en salariés de ces indépendants, cette requalification s'est faite dans les pays où les inégalités se sont le plus développées. Aux États-Unis, je pense à la Californie, et puis au Royaume-Uni, et je rappelais tout à l'heure la décision de justice qui a été rendue à la fin du mois d'octobre dernier. Donc vous voyez où les travailleurs, les prestataires de services pour Uber ont été requalifiés en salariés. C'est sans doute ce qui arrivera en France si on n'essaie pas dans l'intervalle de créer quelque chose qui soit englobant et qui permettent d'éviter en quelque sorte de passer forcément par la casse salariée. Pourquoi ? Parce que la casse salariée ou le développement du salariat et le développement du code du travail ont été conçus, ont été le fait de la civilisation de l'usine en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui, si ça se développe, si ça se diffuse à l'ensemble de l'économie, peut brider l'émergence de nouvelles formes de travail qui appellent parfois certaines flexibilités. On l'a vu dans l'économie des start-up. Et donc il faut trouver quelque chose d'englobant qui ne bride pas, mais qui protège les travailleurs concernés.
Alors, qu'est-ce que vous proposez ?
Et nous, ce que nous proposons...
Donc, avec Jacques Barthélémy, dans ce livre « Travailler au XXIe siècle », Chodil Jacob.
Jacques Barthélémy et moi, ce que nous proposons, et là, c'est une dimension juridique très forte, c'est l'émergence d'un droit de l'activité économique. Qu'un travailleur soit salarié ou qu'il soit indépendant, il doit avoir des droits. S'il est déconnecté, quand il est indépendant, s'il est déconnecté par une plateforme, il doit avoir les possibilités de recours en justice. S'il perd les prestations qu'il donnait, si son donneur d'ordre arrête de lui donner des ordres, des commandes, eh bien il doit pouvoir bénéficier de l'indemnisation du chômage. Vous voyez, c'est ce genre de choses que nous proposons. Et dans cette évolution, nous proposons que les partenaires sociaux jouent un rôle fondamental, essentiel, central. Pourquoi ? Eh bien, parce que la définition de la dépendance économique est complexe. Et elle est complexe, elle peut différer selon la nature même de l'activité. Et plutôt qu'une approche qui serait essentiellement, voire exclusivement réglementaire, nous proposons de que les partenaires sociaux se saisissent en quelque sorte de la chose pour nous dire quand est-ce qu'il y a dépendance économique, quand est-ce que des seuils de dépendance économique forts sont atteints et appellent des protections pour les travailleurs concernés.
Alors, ce point de vue que vous exprimez, c'est peut-être ce qui permettra à Mathilde Ramadier, l'auteur de Bienvenue dans le Nouveau Monde, comment j'ai survécu à la coulée des startups, de retrouver un peu d'optimisme, parce que pour le moment, eh bien, en fait, à ses yeux, ces startups, ce nouveau monde, c'est la réhabilitation d'un très, très vieux monde.
On nous fait croire qu'on est rentré dans une nouvelle ère, qu'on a révolutionné le monde du travail, qu'on est toujours en cours de révolution. Mais en réalité, c'est un leurre. Et en fait, sous les habits bien beaux de tout ça, on se retrouve effectivement avec les mêmes problématiques des boîtes à papa. Et même pire, je dirais, enfin, moi je trouve qu'on régresse même un peu jusqu'au 19e siècle. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu des boîtes où les syndicats étaient interdits, il n'y avait pas de comité d'entreprise, les CDD avaient une période d'essai aussi longue que le contrat lui-même, etc., etc.
Pourtant, on fête les anniversaires.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est que quand il faut être gentil et manger des bonbons, là, il y a toujours quelqu'un. On met des smileys un peu partout. C'est vrai qu'on baigne dans cet univers de l'enfance, ou en tout cas de l'adolescent attardé, quoi.
Est-ce que vous allez continuer dans ce monde-là ou est-ce que pour vous c'est révolu, fini, terminé?
C'est fini depuis bientôt 2 ans. Maintenant, je suis auteur à temps plein, je fais de la traduction. Il m'arrive d'avoir des missions pour 2-3 startups encore, avec qui ça se passe bien. On est connu 12 en tout en 4 ans. Et si je compte tous les entretiens d'embauche que j'ai eus, j'ai dû en rentrer dans à peu près 25 bureaux de startups. Il y en a que 2 ou 3 avec qui j'ai envie de continuer à travailler.
Vous savez qu'en France et dans tous les pays européens, on rêve d'avoir des Facebook, des Apple, etc. Et que tous les décideurs, tous les gouvernements lancent des incubateurs de start-up. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est vain? C'est renoncer?
C'est vrai, quand je vois tout ça, ça me navre, parce que personne ne s'intéresse à ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Et en l'occurrence, moi, j'inviterais les dirigeants et les gens qui sont convaincus du bienfait des start-up d'aller voir un peu toutes ces petites mains et de se rendre compte de la qualité de vie au travail et de tout ce que ça implique, de ce que cette idéologie, moi, que je trouve néfaste, implique à l'échelle de la société pour toute une génération.
C'est-à-dire, c'est une infantilisation, un esclavage nouveau?
Un esclavage moderne, couplé à une forme de régression à la fois intellectuelle et dans le droit du travail. Une compétition sans bornes, très sauvage. Et c'est destructeur pour l'individu. J'ai vu beaucoup de gens rentrer en dépression. Et puis destructeur, comme je le disais, à l'échelle de toute une génération, la mienne et puis celle qui arrive.
C'était donc Mathilde Ramadier, l'auteur de Bienvenue dans le Nouveau Monde, comment j'ai survécu à la coolitude des startups. C'est un livre paru aux éditions Premier Parallèle. Je vous voyais réagir plutôt positivement à ce que disait Mathilde Ramadier, Gilles Berset.
Oui, dans ce qu'elle dit, ici encore, il y a 2 choses. D'abord, elle dit, il y a certaines startups dans lesquelles je pourrais continuer à travailler. Vous voyez, il y a de la diversité. Sauf pas, le monde n'est pas complètement noir. Le monde du travail indépendant porté par les startups n'est pas complètement noir. Mais l'impression dominante qu'elle a est une impression qui est tout à fait réelle. Il y a quelque chose qui a émergé. L'environnement réglementaire, l'environnement social ne s'y est pas complètement encore adapté parce que ça demande du temps. C'est allé très vite, ces mutations, ces changements. Et la dimension première de ce qu'elle reproche à ces situations qu'elle a vécues, c'est quand même l'extrême précarité. Vous voyez, si on devait donner un nom à ce qu'elle dénonce, c'est l'extrême précarité. Elle a le sentiment d'une régression de la protection. Elle disait du code du travail, mais le code du travail existe, mais une régression des protections parce que le code du travail protège le salarié. Le code du travail ne protège pas ces formes de travail. Et c'est pour ça qu'avec Jacques Barthélémy, nous disons, il faut adapter les choses, il faut sortir d'une approche où les protections doivent être forcément liées et uniquement liées à l'existence d'un contrat de travail, à une subordination juridique. Nous disons non. Quand il y a une subordination économique sans contrat de travail, par la prestation de service, eh bien, il faut aussi qu'il y ait des protections. Et ces protections, il faut savoir les élaborer, les concevoir avec la difficulté de la chose. Faut pas nier cette difficulté. Donc, il ne faut pas interdire ce développement. Il faut accompagner ce développement de façon à ce que des protections existent, que ces gens-là ne soient pas exclus de toutes les protections dont bénéficie la très grande majorité des travailleurs, à savoir les salariés. Et c'est ça le droit de l'activité professionnelle que nous voulons construire que nous préconisons, Jacques Barthélémy et moi.
Et est-ce que, je ne veux pas vous entraîner sur un terrain purement politique, mais est-ce que vous trouvez que dans ce débat présidentiel en France, ces idées-là trouvent leur place ?
Alors, ces idées-là trouvent leur place de façon encore marginale. Je disais tout à l'heure que certains intervenants dans la campagne, je ne vais pas les nommer puisque là c'est une touche négative, agitent des éléments d'anxiété en nous disant à tort, voilà, le travail indépendant, Uber, les formes d'ubérisation vont manger tout le travail. Non, ça c'est faux. Mais il y a des éléments positifs. Moi, quand j'entends quelqu'un comme Macron, hein, pour le nommer, dire qu'il veut faire bénéficier de la protection chômage le travail indépendant, eh bien, pour moi, c'est une réelle avancée. Pour moi, c'est une réelle avancée. Et ce que dénonce, par exemple, la personne que vous avez interviewée, c'est justement cette absence de droit à l'indemnisation chômage. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il n'y a pas que l'indemnisation chômage. Il y a aussi la possibilité, par exemple, d'avoir des recours quand son donneur d'ordre dit « j'arrête de faire appel à toi, t'as plus de fait de travail ». Eh bien, cette déconnexion doit quand même apporter, être associée à des droits. Il faut pouvoir dire « ben non », faut pouvoir contester. Hein. Je dirais bien non, je conteste d'être de fait, pas de droit, c'est pas encore le cas, de fait licencié, privé de travail.
Merci Gilbert Sept, éco-dissier, éco-d'ailleurs est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre que vous co-signez avec Jacques Barthélémy, Travailler au 21e siècle, l'ubérisation de l'économie, avec un point d'interrogation, publié aux éditions Odile Jacob. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.